got it.
Yeah. No, are you sure? Yeah. Oh.
My first thoughts in .art were, I need this domain.
This new platform, it gave us the possibility.
Cette nouvelle plateforme nous permet d'avoir une vision différente. Nous avions besoin de nouveaux identifiants. Nous voulions parler directement à la communauté des arts. Donc nous voulions cibler de cette façon. Nous voulions qu'il y ait une nouvelle notion des sites de nos artistes pour créer un certain enthousiasme. Kickstarter.com, myoceanic.art, picasso.art, brafa.art, canesso.art, iconotv.art, aesf.art, mamm.art. C'était quelque chose dont je voulais faire partie. C'est un nom très fort. Ça comprend plein d'activités artistiques, des musées, des expositions, etc. L'art, c'est pour les gens, pour le peuple. Avec ça, je peux permettre de montrer des pièces de l'art aux personnes tous les jours et gratuitement. Toutes les personnes ont les mêmes passions de la vie et cela se partage à travers l'art. Si vous voulez être dans cet espace, click.art, c'est votre espace. Je m'appelle Kirk Press, je suis donc le modérateur pour cette séance. Je voulais venir parler parce que je voulais parler de point art. Donc, comme je suis là en tant que modérateur, je voulais vous montrer cette vidéo en premier. Comme vous le savez, je travaille avec la Cannes depuis 9 ans et maintenant je suis du côté des opérateurs de registre depuis 5 ans. J'ai vécu des deux côtés, si vous voulez, s'il y a des différences incroyable dans la perception du côté opérateur de registre et de l'autre côté. Nous savons exactement quelles sont les motivations des opérateurs et la définition de leur réussite. Nous travaillons avec ces gens-là et nous avons appris qu'il y avait plusieurs définitions de la réussite. Et donc, sur le panel aujourd'hui, nous avons une section plutôt varié de tous les opérateurs de registre. Nous avons des associations de l'industrie, des associations nationales telles que celle de la pharmacie et de l'association des banques américaines qui sont en existence depuis très longtemps. Nous avons de nouvelles organisations aussi comme Point Berlin. Ils représentent les personnes donc sur le DNS. Nous avons des marques très importantes. Ils vont passer de leur nom de domaine à un nouveau nombre de domaines qui seront le nom de leur marque. Et nous avons aussi des personnes qui sont pas très alignées, très passionnées comme .design, .art, .art. Donc il y a énormément de modèles d'affaires et chacun d'entre eux sont passionnés d'une façon différente. Donc ils ont leur propre définition de la réussite. Et c'est pour ça que nous sommes là pour en parler. Je vais faire une référence de culture pop. Comme disait Johnny Mitchell, je suis allé à la cime de la montagne et j'ai vu l'autre côté de la montagne. Nous essayons donc de trouver la meilleure manière de pouvoir parler de tout cela et d'en faire une conversation, pas seulement un ensemble de présentations. Nous avons aussi 160 diapositives à vous montrer d'ailleurs. Donc vous allez les voir sur l'écran. Nous allons vous démontrer quel est le style de vie des opérateurs de registre. Nous allons voir quelle est la définition qu'ils ont du succès ou de la réussite. Comment ils ont décidé de faire ce qu'ils font et comment ils ont commencé. Aussi, nous aurons des questions au sujet de ce qui s'est passé lors de leur parcours. Quelles ont été les surprises, quelles ont été les choses faciles, difficiles. Et nous allons aussi parler de leurs résultats et de leurs réalisations. Il y a donc certaines questions qui sont croisées, si vous voulez, qui se chevauchent. Mais je suis quand même contente d'avoir toutes ces personnes avec moi sur le panel aujourd'hui. Nous allons vous présenter JJ Lavine du NABP, donc de l'Association nationale de la pharmacie. C'est elle qui est responsable des opérations de l'opérateur de registre de points pharmacie, qui est donc géré par NABP. C'est une association impartiale. Et ils sont là pour protéger donc les droits des personnes et la santé publique. Ils ont contribué à la recherche de la prévalence de la fraude en ligne. Et je pense que c'est pour ça qu'elle est là pour nous parler de points pharmacie.
JJ au micro, oui. Comme vous l'avez dit, notre mission consiste à protéger la santé publique. Et lorsque nous avons découvert la nouvelle application de l'ICANN pour les nouveaux GTLD, nous avons vu qu'il s'agissait là d'une opportunité pour approfondir cette mission. Lorsque nous sommes devenus opérateurs de registre pour Point Pharmacie, notre idée était de créer un espace en ligne sûr où les clients puissent être sûrs que les médicaments et toutes les informations qu'ils obtiendraient en ligne étaient légitimes et sûres. Les activités légitimes des pharmacies sont hautement réglementées pour protéger la santé publique. Mais lorsque vous allez en ligne, vous trouverez des dizaines de milliers de sites web qui opèrent de manière illégale en vendant des médicaments frauduleux, falsifiés, contrefaits, ce qui représente une menace à la santé publique au niveau mondial. Les autorités chargées de l'application de la loi ont déclaré que l'Internet est l'espace le plus courant pour la contrefaçon des médicaments. Et il semblerait, selon les données de l'OMS, qu'entre 100 000 et 1 million de personnes meurent chaque année en raison de médicaments falsifiés. Il y a un système de GTLD vérifié et le NABP a créé un environnement sûr. Lorsque je parle de TLD vérifié, cela veut dire que pour utiliser Point Pharmacie, ce nom de domaine, les titulaires de nom de domaine doivent d'abord démontrer qu'ils sont dûment homologués pour fournir des médicaments sur ordonnance et offrir leurs services. Il faut également qu'ils démontrent leur conformité aux législations applicables dans le domaine de la pharmacie. Une fois qu'ils sont homologués, qu'ils ont démontré leur conformité, il faut qu'il y ait un sceau d'homologation qui ne peut pas être falsifié, contrairement à un logo qui peut être copié-collé d'un autre site web. Et il est important également de dire que le TLD Point Pharmacie a enregistré zéro incident d'utilisation malveillante depuis des années de fonctionnement. Kurt au micro, merci beaucoup, très intéressant. Mais ce que vient de dire GG, c'est très intéressant parce que ce GTLD permet de sauver des vies. Ensuite, Matt, c'est un ami à moi, président et PDG de Second Gen. Il s'agit d'une entreprise qui a toute une série de succursales. Vous allez en entendre parler. Ils fabriquent des motos et ils travaillent avec leurs clients pour mettre en place des valeurs à long terme. Et il va vous en dire un peu plus dans un instant. Matt au micro, merci beaucoup Kurt. Mon entreprise a été créée il y a plus de 50 ans maintenant, à l'origine, comme une société de radio et télédiffusion. On représente plus de 50 stations radio et télé aux États-Unis, sur tout le territoire, et nous représentons également plusieurs équipes sportives, les Cleveland Cavaliers, etc. Et nous offrons une expertise dans les licences et les partenariats stratégiques. En 1996, nous avons commencé à observer un changement dans notre activité, en particulier à mesure que le World Wide Web a commencé à gagner de l'importance par rapport aux consommateurs. Et pour les consommateurs, c'était de plus en plus difficile, ou plutôt facile, d'obtenir des informations qu'ils obtenaient auparavant d'après les stations de radio et de télévision. Et en 1996, le FCC a passé une loi sur les télécommunications qui déréglementait les restrictions par rapport aux personnes qui détenaient des propriétés de radio et télédiffusion. Donc, à partir des années 2000, on a cherché de nouvelles opportunités. On s'est développé dans les activités de fabrication de motos. Et on est venu nous parler de l'ICANN et des TLD. Et à mesure qu'on a fait des recherches sur cette opportunité, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'analogies entre notre expérience dans le domaine de la radiodiffusion, télédiffusion, les licences et la manière dont l'ICANN proposait de lancer les nouveaux GTLD. Donc en 2004, lorsque la série des CTLD a été lancée, on a participé et cette série nous a permis à Point Jobs de lancer une association à but non lucratif appelée Société pour la gestion des ressources humaines comme sponsor. Et nous avons travaillé en coopération avec VeriSign. Ce qui a permis de déclencher pour nous l'idée de commencer à travailler avec des entreprises spécifiques, des communautés spécifiques. Et après la série de 2004, on savait qu'il y aurait des séries ultérieures. Ce qui nous a permis de chercher d'autres partenaires avec lesquels on pourrait développer pour développer des TLD spécifiques pour cette activité. Et c'est là qu'on a commencé à travailler avec l'Association nationale des associations immobilières au Canada et également avec la clinique de Cleveland, par exemple. Et finalement, on a demandé la candidature pour 8 domaines de premier niveau en 2008. Point Jobs, Point Realtor, Point Career, Point Med et Point Real Estate. Cœur ton micro. Merci, Matt. On en a parlé hier soir. Et j'ai été surpris d'entendre que l'organisation de GG a commencé en 1994, Matt, il y a 15 ans. Donc ces organisations ainsi que leur mission et objectifs datent d'il y a longtemps et permettent et trouvent des solutions dans le DNS à leurs problèmes. Et on va passer maintenant à une personne qui a créé son entreprise. Doug, c'est le fondateur et PDG d'un TLD de premier niveau à Hambourg, Point Berlin. C'est un projet qui a commencé en 2005 et il est actuellement vice-président de l'association des noms de premier niveau des extensions géographiques. Et il plaide en faveur des intérêts des domaines de premier niveau. Dirk, au micro. Merci, Kurt. Alors, moi, j'ai travaillé pendant 15 années dans l'industrie pharmaceutique jusqu'à ce que je rejoigne l'Internet et la communauté ICANN. Et ça, ça a été un changement radical dans mon travail et mon état d'esprit. Excusez-moi, dit l'orateur, j'ai appuyé sur le micro au lieu d'appuyer sur le clicker. Donc, l'idée d'un nom de domaine de premier niveau comme Point Berlin est venue des espaces de noms de domaine qui étaient déjà surchargés, .com, etc., avec plus de 100 millions de .com, plus de 10 millions de .e. Et donc, on a lancé en 2005 l'idée au Forum public en demandant au conseil d'administration de l'ICANN de lancer une série pour permettre aux domaines de premier niveau qui pourraient compléter les CCTLD. C'était notre argument parce que les petits CCTLD qui ont moins de 20 000 habitants ne peuvent pas prétendre aux domaines de premier niveau. Donc, on a eu quelques réactions et Vinsurf, qui a été le premier, ça a été mon cofondateur, n'a pas été totalement ouvert à cette idée. Puisqu'il ne savait pas si ça allait totalement changer la donne, si il n'y allait pas y avoir une balkanisation de l'Internet et ce genre de questions. Kurt au micro. Alors, c'est vous qui êtes sur la gauche, là ? C'est ça ? Sur la photo, c'est vous ? Dirk ? Dirk au micro, oui. Alexander et moi-même, bon, on est là sur la photo. Alors, on avait l'idée, en lançant Point Berlin, de créer un bien public pour tous les Berlinois. Je ne sais pas quelle est la diapo suivante. Et le projet consistait à réunir les deux Berlins, la partie Est et la partie Ouest. Et nous avons pensé que les CTLD étaient une bonne chose pour toutes les villes et on a comparé cette idée à l'idée qui consistait à créer un nouveau parc numérique. Ce serait un espace ouvert et inclusif. Donc c'est un petit peu cette idée du parc qui nous a orientés. Et il y a également une citation de Kennedy et qu'on a repris à notre compte, n'attendez pas de Berlin qu'elle fasse ce qu'elle ne peut pas faire pour vous, mais plutôt demandez-vous ce que vous pouvez faire pour Berlin. Donc la première réaction de la ville de Berlin a été de nous envoyer une injonction en disant « il faut arrêter tout cela, sinon ça va vous revenir cher ». Et on a reçu une deuxième injonction à laquelle on n'a pas réagi et on s'est au contraire engagé avec la communauté. Et en l'espace d'un an, on a organisé une levée de fonds communautaire, un crowdfunding en anglais, en trouvant les différentes parties prenantes, des parrains, des sponsors qui pourraient soutenir notre projet. Et ça a été un pas en avant significatif vers la reconnaissance de ce projet auprès du gouvernement de Berlin. Et un an après, en 2008, le Parlement allemand a dit « Oui, nous voulons des extensions géographiques de premier niveau pour nos villes et nos États fédéraux ». Et ça a été un pas en avant magnifique vers l'approbation de notre projet. Diapo suivante. Mais il nous a fallu attendre un long moment jusqu'à arriver à 2014 où on a pu finalement lancer ce projet. Et nous avons pu voir défiler les PDG de l'ICANN, Fadi, puis Yoran Marbi, pour arriver justement à ce moment-là. Carte au micro. Oui, c'est justement l'histoire de l'ICANN où, au départ, pour ce genre de projet, on reçoit d'abord une réponse négative et finalement, avec l'aide de la communauté, tout s'inverse. Merci. Sean est l'ancien directeur du programme GTLD, FLED de l'ICANN. Il est devenu directeur exécutif des services de registre FTLD qu'il a créé en 2011 pour .banque et les TLD vérifiés .banque et .insurance, assurance. Pendant 5 ans, il a également participé au programme des GTLD. Greg, si vous voulez prendre la parole. Greg au micro, merci Kurt. Il est bon de voir des visages familiers dans la salle. Alors notre histoire ressemble un peu à celle de JJ et de Point Pharmacie. En termes de l'idée qui nous a orientés, c'est un peu différent. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La grande idée de l'ICANN, c'était de laisser tous ces nouveaux TLD aux industries financières, d'éviter cela. Et ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu la reconnaissance que d'abord, on voulait sécuriser cela, mais il y avait aussi des opportunités énormes qui n'existaient pas auparavant. Et tout comme Point Pharmacie, nous avons opéré comme domaine de premier niveau en nous assurant que tous les titulaires de nom de domaine répondaient à toutes les conditions requises pour être éligibles. On a également toute une série de critères en termes de sécurité. Les entreprises financières et d'assurance sont les premières victimes d'utilisation malveillante en ligne, ce qui peut s'avérer avantageux pour la communauté et qui y participe. Bien entendu, il y a beaucoup de préoccupations par rapport au fait que ces TLD tombent dans les mauvaises mains et il y a prolifération d'utilisation malveillante de ces domaines. Et on se concentre énormément sur l'innovation et sur les choses qu'on peut faire différemment. Donc il s'agit finalement d'être au service et de protéger l'industrie de la banque et de l'assurance. Donc nous avons commencé à chercher des parties prenantes dans notre activité, que ce soit aux États-Unis, à l'étranger, avec la Fédération bancaire internationale. On s'est réunis avec ces groupes pour constituer une entreprise et obtenir un soutien pour lancer notre application à l'ICANN en 2012. Finalement, on n'a pas dû attendre aussi longtemps que Dirk pour Point Berlin. Donc, on a dû attendre plusieurs années pour passer tout le processus de candidature. Mais finalement, on a obtenu l'approbation et on a pu lancer le TLD. Alors, ce qui fait que Point Banque et Point Insurance est différent des autres TLD, ce sont les éléments de vérification ainsi que les conditions requises en termes de sécurité. Si vous rassemblez ces éléments, Point Banque et Point Insurance sont une ancre de confiance. On entend de la part des banquiers que Point Banque les aide à apporter une sécurité que les clients peuvent comprendre. Si vous voyez Point Banque, vous savez que vous pouvez faire confiance. Et pour les banques qui n'utilisent plus de mail pour parler à leurs clients parce qu'il y a trop de hameçonnage, ils peuvent utiliser de nouveau le mail comme outil de communication parce qu'il y a, c'est énormément sécurisé. Bien entendu, il y a un certain nombre d'éléments en termes de sécurité qui s'appliquent non seulement aux titulaires de nom de domaine, mais également au bureau d'enregistrement. Pour certains titulaires de nom de domaine, il s'agissait simplement d'obtenir de meilleurs noms de domaine, plus pertinents et dont on se souvienne mieux. Et ça a également créé un moyen pour eux de différencier leurs produits vis-à-vis d'autres concurrents. Et sur un marché où il y a beaucoup de fusions-acquisitions dans le domaine bancaire. Et c'est réellement une valeur ajoutée pour tous nos acteurs dans le domaine de la banque et de l'assurance. Carte au micro, merci Greg. Et une fois, j'étais assis dans mon bureau et Paul est venu me voir et m'a dit « Kurt ?» Je ne vais pas l'imiter totalement, sinon vous n'allez pas comprendre. Kurt, il y a un tout nouveau programme GTLD qui va être jugé par Getz.com. Et finalement, ça n'a jamais vu le jour. Mais l'une des grandes réussites du programme de GTLD, c'est justement le FTLD qui opère ce programme pour la NBA et d'autres. On va commencer une transition vers la deuxième série de questions en parlant de certaines des choses qui sont produites après cela. Et Jason va nous en parler. Il s'agit du directeur de l'engagement des clients d'opérateurs de registre à Neustar. Et il a un portefeuille d'environ 300 TLD. Donc il y a une histoire derrière l'histoire de Neustar, Newstar. Et nous attendons avec impatience de vous écouter. Bonjour et merci Kirk.
Je vais vous parler de certains des points clés derrière cette transition de Newstar. Je vais vous expliquer ce que nous avons fait, comment nous l'avons fait, quand nous l'avons fait et pourquoi nous l'avons fait. Certains des points clés et les raisons de la transition sont ceci. La première, c'était qu'il fallait commencer à aider les clients à trouver les choses plus facilement. Il fallait que les clients puissent aller en ligne et avoir accès à notre contenu de façon simple et facile. Nous avons parlé de cette transition depuis longtemps. Cela a pris 4 ans. Et je ne suis pas là pour vous dire que c'était facile. Ce ne l'était pas. Nous savions que nous devions commencer dès le départ et éduquer nos parties prenantes pour que tout cela fonctionne très bien. Donc nous avons eu le OK dès le départ de notre PDG. Nous avons pu commencer. Nous sommes donc allés vers Lisa, notre PDG, et nous lui avons démontré que ces marques importantes, comme vous les voyez sur l'écran, l'avaient fait. Donc cela nous a aidé à démarrer le progrès et à réussir. Le projet, pardon, et à réussir. Nous avons fait un changement. Nous sommes passés à point Newstar, de Newstar Biz à point Newstar. Nous avons rafraîchi le site et nous avons combiner cela avec une analyse complète de tout contenu que nous avions en ligne. Cela a très bien fonctionné, nous avons pu faire les deux choses en même temps. Et dans cette analyse, nous avons observé que la ligne de produits donc ces 5 produits de base, comme nous l'avons observé, avaient leur propre contenu, avaient leur contenu spécifique. Ils n'étaient pas forcément interliés, mais ce que nous avons fait, donc nous avons créé des micro-sites pour chacun de ces produits, chacune de ces lignes de produits. Vous voyez sécurité.newstar, dans lequel nous avons pris les données et nous avons créé un contenu spécifique sécurisé pour ce site, ce micro-site. Et tous les sites ont la même conception et sont rentrés dans ce nouvel écosystème Newstar. Alors que nous avons continué donc à analyser les choses, nous avons trouvé d'autres informations intéressantes. Nous avons analysé les manières avec lesquelles les clients allaient pouvoir interagir avec notre site. Et ainsi, nous sommes rendus compte que les clients avaient du mal à trouver le contenu que nous avions sur ce site. Nous avons donc mis en place un concept de navigation directe et c'était logique pour nous de créer des termes. Nous en avons créé à peu près 600 et ainsi nos clients pouvaient aller directement vers le contenu qu'ils voulaient et non pas à cliquer à droite, à gauche sur notre site pour trouver tout genre d'informations. Nous avons créé Donc une façon de rediriger une nouvelle section, et nous avons créé plein de termes comme cela. L'autre chose que nous avons faite, c'est que nous nous sommes rendus compte que quand les clients venaient sur notre site, ils ne pouvaient pas naviguer facilement. Ils ne savaient pas exactement ce qu'ils recherchaient. Ils voulaient apprendre des choses sur Newstar. Donc nous avons créé un moteur de recherche propre. Vous avez donc une boîte de recherche sur le site. Et ainsi, nous avons créé search, donc recherche.newstar. Donc nous avons une nouvelle expérience de recherche. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez donc les résultats de recherche qui vous seront familiers. Mais la différence est celle-ci. Ce sont des résultats spécifiques à Newstar. Il n'y a pas d'informations des concurrents. Et vous obtenez ainsi des résultats qui sont spécifiques à Newstar. Et ce moteur de recherche va scanner le site Newstar entièrement. Nous avons trouvé qu'il était intéressant que le fait que cette campagne d'éducation interne et externe dont nous avons parlé tout à l'heure nous a permis d'aller vers un raccourci d'URL avec la marque. Donc maintenant, il est plus facile de l'utiliser. Nous utilisons cela à travers tous nos programmes de marketing et nous pouvons ainsi faire passer le message à tous. Voilà ce que nous avons fait. C'était un changement très, très important pour nous parce que maintenant, nous avons notre URL de marque propre. Nous avons fait une campagne en interne et nous avons envoyé beaucoup de courriels pour nous assurer que notre personnel savait exactement ce qui se passait parce que c'était un changement très significatif. Nous avons eu quelques problèmes sur le parcours, mais en général, nous avons eu de très bons succès. Nous avons aussi garder certains de nos historiques tels que des adresses comme celle-ci, jason.loyer@newstar.biz. Nous avons aussi utilisé .newstar et hello.newstar pour essayer d'apprendre, pour essayer d'informer les gens sur ce qui se passait sur le marché. C'est un compagnon d'information, si vous voulez, qui explique la transition et qui explique aussi ce qui se passe dans l'industrie en général. Kurt au micro. Merci, Jason. C'était très bien. Je lui ai parlé tout à l'heure et je me suis rendu compte que la première motivation était d'aider leurs clients et c'est pour cela qu'ils l'ont fait, pour pouvoir créer de façon différente d'obtenir les informations. C'est très, très intéressant. C'est bien fait. Donc, maintenant, nous allons passer à la transition nous-mêmes. Nous allons passer à la séance questions-réponses. Nous allons passer aux questions. Donc, comme vous savez, .design.art s'adresse surtout à la communauté. Et pour que tous ces groupes puissent atteindre leurs clients, les gens qui veulent servir. J'ai parlé de l'opérateur de registre de Point Design qui va vous parler maintenant. Donc, nouvel intervenant. Je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé après le déploiement. J'étais surprise parce que nous pensions qu'on pouvait aller à Facebook et puis créer cela et convaincre qu'ils avaient besoin de faire un Facebook.design. Donc maintenant, nous avons 4 exemples qui nous ont convaincus et qui ont convaincu les autres que la première chose à faire, c'était de faire donc cette décision stratégique. Mais avant de passer à ça, je voudrais vous dire que nous avons 70 000 domaines qui sont gérés par Point Design. C'est donc très intéressant pour nous et pour l'industrie, mais toutes ces personnes individuelles, utilisateurs qui ont leur propre domaine, c'est ce qui correspond vraiment au succès de Point Design. La communauté avait une attente parce que les grosses marques allaient prendre ces noms de domaine. Et lorsque cela ne s'est pas produit au déploiement, ils se sont rendus compte que c'était une bonne chose. Il y a à peu près 2 ans, Airbnb.design était donc le premier et cela fait tourner beaucoup de têtes dans Silicon Valley. Et vous pouvez comprendre que ces compagnies sont en compétition pour ces designs. Ils veulent utiliser Dropbox, WeChat et Slack. Donc, nous avons séparé cela en 3 raisons pour lesquelles ces compagnies opèrent avec de tels sites. Je vais vous parler de celle qui est la plus importante, parce que c'est quand même un marché très compétitif. Ces sites de recrutement sont très explicites. Je vais passer là-dessus très rapidement. Vous avez tous vos ordinateurs ouverts, donc vous pouvez naviguer ça à travers les diapos avec moi. Nous avons Uber.design qui nous a rejoint, Booking.design aussi, Telecom.design, c'est une compagnie de T-Mobile. Ils ont des vidéos, des profils de leurs effectifs, etc. Amazon.design, c'est un des nouveaux qu'on vient de trouver. Ils ont aussi du contenu en vidéo, mais ils travaillent beaucoup avec nous. Notre grosse poussée, c'est sur les contenus de marketing. La plupart des personnes vont comprendre que c'est du contenu, c'est pas forcément pour quelque chose de spécifique. Ils essayent juste de cibler des audiences dans le monde en général et essayent de faire passer des informations sur les marques. Bon, Airbnb.design, encore une fois, c'est un site fantastique. Et en leur parlant, on s'est rendu compte qu'en interne, 2/3 du contenu venait en externe de Airbnb. Donc, c'était très intéressant. NPR.design, c'est un blog de cette équipe de NPR. J'ai entendu une des personnes de NPR qui m'a dit « Oh, vous pouvez toujours aller sur NPR.design et aller regarder, lire mon blog. » Nous avons Color.design aussi, qui est un exemple très intéressant parce que vous n'entendrez jamais parler d'autre chose que des architectes et des designers d'intérieur. Raphaël Design aussi est une chose intéressante. C'est Point Design, c'était la deuxième chose qu'ils avaient fait pour leur site. Leur équipe veut vraiment parler à leur père et vous savez que ce serait difficile de mettre tout ce contenu sur leur propre site. Donc, ils utilisent le Point Design site. Alors, celui-ci vient de Facebook. C'est vraiment un génie, ce Facebook. L'origami, c'est une application, un prototype d'application qu'ils utilisent en interne. Alors, vous imaginez les gens qui veulent en discuter peuvent utiliser cet outil. C'est très intéressant. Automatic.design aussi, ça marche très bien. Et puis, la raison pour laquelle ces marques le font, c'est parce que ça leur permet de gérer leur marque. Ils peuvent faire plein de choses, télécharger du contenu, etc. Ils peuvent créer une communauté de designers. Et vous avez Ant, c'est la compagnie derrière Alibaba, donc le groupe Alibaba. E-Trade, c'est un des meilleurs exemples. Richard.design, c'est bien aussi. Je voudrais vraiment vous faire comprendre que cela se produit parce que si vous prenez l'exemple de Facebook, Facebook.design, c'est le meilleur nom de domaine pour ce site. Il n'y a pas un meilleur nom de domaine, nouveau TLD, ancien TLD, qui sont mieux pour Facebook que Facebook.design. C'est vraiment très passionnant. Et je suis très vraiment, vraiment heureux de ce que je peux observer maintenant. Alors, vous savez, les nouveaux TLD, quand on dit générique, ou les TLD niches, sont très intéressants parce qu'il peut y avoir toutes sortes de designers, que ce soit des designers de bijoux ou de mode, ont des avenues pour s'exprimer beaucoup plus intéressantes. Kirk, ton micro, oui, c'est très intéressant. J'ai 2 commentaires. Nous avons des choses similaires à Point R. Alors, il y a des tas de manières de pouvoir trouver le contenu. La deuxième chose, c'est que quand je parle à ces personnes ou quand je vois d'autres personnes et que je parle de ce sujet, on sait que ces gens, clic-clic, passent tous ces exemples en liste comme ça. Tous ces exemples sont mieux que les autres. Alors, quand il s'agit d'adopter des nouveaux TLD et de toutes ces entités, c'est vraiment, ce sont vraiment de très bons exemples. Martine, vous pouvez prendre la parole ? Martine au micro. Oui, j'ai ma présentation dans un livre. Alors, si vous voulez... si vous en voulez une, je peux vous la faire passer après cette séance. Alors, Kurt au micro. Martin est à la tête du groupe des marques. Donc, c'est bon d'avoir Martin ici qui représente certaines de ces entités. Il travaillait pour HSBC et maintenant il est directeur exécutif du groupe des organisations d'associations. Alors, donc, pour suivre avec ce que Jason a dit, nous allons demander à Martine de prendre la parole. Martine au micro. Comme vous l'avez déjà dit, les compagnies qui ont acquis donc un registre étaient nombreuses. Mais quand il s'agit d'entreprises de base qui géraient un registre, ce n'est pas vraiment la chose qu'ils savent faire. Donc, il y a souvent des problèmes de communication. Donc, pour cela, pour en parler, je suis là. Nous allons vous montrer les différents types de déploiements. Voilà ici devant vous une compagnie d'ingénierie qui est basée en Écosse. C'est une organisation business à business globale. Nous avons vu donc une nouvelle opportunité pour développer leur présence en ligne. Ils ont donc lancé leur TLD. Ils ont donc ainsi consolidé leur présence en ligne. Ils ont créé leur espace numérique et simplifier leur espace numérique et créer donc un point d'accès unique et uniforme pour tous leurs produits et leurs services. Ils avaient ainsi la flexibilité d'adapter leur espace facilement et de développer leurs affaires alors que donc leurs affaires voyaient une certaine croissance. Nous avons maintenant un exemple de service financier. Maintenant, il y a plusieurs banques qui utilisent leur propre TLD, qui tirent profit des sécurités, des contrôles et des sécurités additionnelles qu'ils peuvent en tirer, qui sont fournis par les opérateurs de TLD. Quand on parle de marque, vous savez que là, ils peuvent gérer toute l'utilisation de A à Z. Ils ont ainsi plus de contrôle. Vous avez entendu parler de cela avec Point Pharmacie, avec Point Banque. Cela veut dire que ce sont des domaines où nous ne voyons pas d'utilisation malveillante. Voilà, vous avez ici l'exemple de Barclay, et Point Barc. Barclay, la carte Point Barclay. Ils utilisent donc, ça leur permet d'utiliser des services en ligne et de communiquer en ligne. Ils peuvent ainsi apporter des informations à leurs utilisateurs en ligne et ils ont réussi à rediriger leurs clients, leur base de clients à travers ce transfert pour que les clients utilisent leur nouveau TLD. BNP Paribas, c'est une banque française. C'est un autre TLD. Ils ont donc migré leurs clients aussi très rapidement, malgré cette circulation, ce trafic important de leurs utilisateurs en ligne. Donc, pour les utilisateurs de l'Internet, c'est une bonne manière de pouvoir faire confiance à la marque qu'ils utilisent. Avec Barclay, il y a une intégration plus graduelle. Ils ont ainsi introduit des services, des nouveaux produits. Ils ont donc renforcé leur présence numérique. Dans tous les cas, les marques qui ont activé l'utilisation de leurs domaines qui sont pertinents dans le contexte et qui sont interactifs pour les utilisateurs Internet, se sont assurés que la navigation soit la plus simple possible pour les utilisateurs et que ceux-ci puissent trouver le contenu de façon facile et rapide. Voilà donc deux différents modèles. B à B et B à C. Vous voyez, les priorités sont différentes. Pour ils ont lancé donc et activé leur registre pour deux raisons différentes. Ils ne sont pas leur but ne sont pas forcément les recettes ou l'argent. Leurs buts ne sont pas financiers forcément. Vous avez de plus en plus de marques tous les mois qui sont activées. Il y a d'autres exemples qui ont été créés. Cela vous donne sur l'écran donc une petite illustration de ce qui s'est passé durant les deux mois passés. Vous voyez donc beaucoup d'activités au sein des opérateurs de registres qui sont des marques. Si vous n'êtes pas un client de ces marques, vous n'allez pas forcément vous rendre compte de ces changements. Mais nous, en tant que communauté d'opérateurs de registres, nous avons vu toutes ces activités. Il y a aussi cet aspect de non-visibilité. Ce sont des choses qui se font en interne. Il y a des chaînes de courriels qui utilisent le DNS pour des projets internes. Et cela n'est pas visible à tous, ou du moins pas facilement. Pour terminer sur ce segment, je voudrais vous dire qu'il est très intéressant de voir qu'il y a beaucoup d'activations. Les marques se parlent entre elles, elles discutent de leurs expériences, de leurs meilleures pratiques et elles partagent ces expériences pour s'entraider, pour aider d'autres marques pour qu'elles puissent lancer ou déployer leur propre registre. Donc c'est un des meilleurs aspects que nous avons pu observer. Et nous voyons ça dans le groupe des opérateurs de registre de marque. Nous avons vu qu'ils partagent ces informations, ces leçons apprises. Kirk, le micro. Merci, Martin. Nous allons faire passer le cliqueur à GG. Je voulais d'abord dire que les gens du côté de ma table parle rapidement et vous, à l'autre bout de la table, vous profitez du temps un peu plus que nous.
JJ au micro. Oui, je voulais vous raconter un petit peu l'expérience de Point Pharmacie depuis le lancement. Nous avons 8 grandes compagnies qui ont enregistré au moins un nom de domaine Point Pharmacie depuis 2015, qui inclut Davidson, CVS, Jimena, Kroger, Merck, Rite Aid et Target. Et nous avons également eu une bonne traction nationale avec environ 50% des licences pharmaceutiques aux États-Unis qui utilisent les sites web Point Pharmacie. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Un domaine Point Pharmacie, par exemple CVS peut accepter des ordonnances au nom de milliers de magasins CVS. Donc, les titulaires de noms de domaine pharmaceutique que nous représentons représentent un nombre beaucoup plus grand de magasins pharmaceutiques. Pour les États-Unis, Point Pharmacie, c'est une initiative internationale. On travaille avec d'autres pays pour garantir l'homologation des titulaires de noms de domaine dans d'autres pays, y compris le Royaume-Uni, l'Australie, Hong Kong, le Canada, l'Irlande et l'Espagne. Et nous sommes en communication avec les personnes chargées de la réglementation dans d'autres pays afin d'établir des relations de travail avec eux. On travaille également avec plusieurs partenaires commerciaux. dans leurs efforts d'atténuation de risque. Par exemple, Google, Bing, Yahoo, Twitter, qui utilisent tous.pharmacie afin de vérifier que leurs opérateurs de publicité sont conformes et légitimes. Ça permet également d'atténuer les risques de transactions par carte de crédit sur Internet. Donc, en décembre, lorsque nous avons dépassé les 500 domaines sous gestion, en 2017, nous avons été très émus. Mais sachez que nous travaillons avec un groupe limité de titulaires de noms de domaines éligibles. Et ces 500 domaines représentent également des milliers de pharmacies dans le monde et autres entités pharmaceutiques. Kurt Omicro, oui, on en parlait l'autre fois. Je voyais cette diapo et je n'étais pas convaincue. Mais j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire 50% sur la diapo précédente? Et JJ m'a dit, oui, ça, ces 500 domaines, finalement, ça représente 50% de toutes les pharmacies aux États-Unis. Et je me suis dit, ouh là là, oui, j'y avais pas pensé, j'avais pas calculé l'ampleur. Excusez-moi, je vous ai interrompu, JJ. JJ au micro, oui. Donc, 92% de croissance en 2017 en termes de volume d'enregistrement. Et sur les diapos suivantes, ce que je voulais vous montrer, c'était un petit exemple, un échantillon des domaines points pharmacie en utilisation. La majorité des registres point pharmacie ou opérateurs de registres point pharmacie sont des pharmacies, bien entendu, mais également des vétérinaires, des organisations en faveur de la défense des intérêts des consommateurs, des pharmacies spécialisées, les autorités chargées de l'application de la loi, des centres médicaux et autres. Enfin, ce que NABP aimerait voir, c'est une vaste adoption de points pharmacie et de ces domaines dans toute l'industrie pharmaceutique pour démontrer la crédibilité et la sécurité aux yeux des consommateurs. C'est une manière de se distinguer de l'écrasante majorité de sites web frauduleux qui sont en train de mettre en danger la santé des utilisateurs. En fin de compte, Point Pharmacie contribue à un Internet plus sûr. Kurt au micro, merci. Que s'est-il passé avec Point Realtor? Matt au micro. Alors, nous avons lancé Point Realtor en octobre 2014. Un Point Realtor n'est disponible que pour les 1,5 million de membres de l'association nationale des travailleurs de l'industrie immobilière au Canada. Et on s'est rendu compte qu'il y a eu une très forte répercussion dans la réussite de ce lancement. Il y avait beaucoup d'émotions par rapport au lancement de Point Realtor. Mais au fil des ans, on a beaucoup appris. Et l'une des premières choses qu'on a appris, c'est qu'il fallait réellement construire la marque de Realtor et la distinguer des autres partenaires comme Realtor.com. Les membres étaient un peu confus. On nous demandait, est-ce que vous êtes Realtor? Est-ce que vous êtes Realtor.com? Donc, ce qu'on a décidé, c'est de créer notre propre identité, notre propre logo, marque, pour qu'on soit réellement lié à Realtor, qui est une marque de longue date, créer une association aussi avec les travailleurs de l'industrie pour créer notre propre activité. Et fort de ce succès, on veut continuer à étendre cette réussite en termes de nombre d'enregistrements parce que les chiffres sont très importants pour nous. On veut continuer à croître. Vous voyez ici quelques chiffres des campagnes de médias qu'on a lancées pour encourager les gens à s'inscrire. On a envoyé également des lettres physiques aux clients, aux membres, qui soit avaient demandé à avoir un domaine ou avaient rejoint l'association. Et en tant qu'association nationale, nous avons une base de données avec tous ces membres. Donc nous avons lancé une campagne de diffusion mail. Et vous voyez ici un exemple de campagne que nous avons créée, utilisée par le passé. Ça a été un outil très réussi pour nous à bien des égards, parce que sur les trois domaines, on avoisine en ce moment 70%. Donc c'est un taux très important. Ensuite, on a créé des tutoriels en ligne et des ressources pour que les utilisateurs puissent en savoir plus sur nous. Chez Realtor, tous nos membres sont membres de l'association nationale, mais aussi membres des associations locales et régionales. Nous avons créé donc des outils spécifiques pour les associations locales et bureaux locaux où il y avait un lien plus étroit. Donc on l'a créé comme outil marketing. Bien entendu, on a également nos propres outils en ligne où nos membres peuvent en savoir plus sur ces outils. On a créé des guides en leur expliquant comment créer leur propre, lancer leur propre domaine, créer des adresses mail, etc. Nous y indiquons également des informations par rapport à notre activité, informations qui sont utiles pour toute notre communauté. Et autre chose qu'on a découvert et qui a très bien marché pour nous, c'est que beaucoup de nos membres sont influencés par leur père. Donc l'année dernière, nous avons développé un programme intitulé Speaker Program, où nous avons indiqué des témoignages et créé des séminaires pour voir comment mieux développer votre activité. Et nous avons mis en place des mesures d'encouragement pour nos membres afin de promouvoir notre activité. Ça aussi, ça a été très réussi. Kurt au micro. Merci, oui. Matt au micro. Oui, voilà quelques témoignages que j'aimerais vous montrer. Je vais les passer en revue rapidement pour vous dire que le résultat final, c'est que nos membres sont venus nous voir pour nous dire qu'ils avaient obtenu les meilleurs résultats avec ce programme. Par exemple, quelqu'un du Canada nous a dit « c'est la meilleure manière de développer mon projet professionnel et mon activité » ou une autre qui est venue nous dire que c'était l'avenir. Donc, où en sommes-nous ? On va apprendre des leçons apprises par rapport à au domaine .realtor. Et j'invite tous les bureaux d'enregistrement à venir me voir s'ils souhaitent travailler ensemble pour utiliser tous les outils développés par .realtor et permettre aux bureaux d'enregistrement d'en profiter de ce succès dans le lancement du TLD. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur notre site web et me contacter à l'adresse qui figure à l'écran. Carte au micro, merci Matthew. Justement, ça montre bien la complexité qu'on a dans le nouvel espace des noms de domaine, parce que les registres comme .pharmacie, .banque, etc., sont très différents de .gov et les autres, .mil par exemple. Donc il faut parler les uns aux autres pour utiliser les enseignements tirés. Donc il y avait avant des communications difficiles entre les opérateurs de registre, bureaux d'enregistrement, titulaires de noms de domaine. Or, comme Matt l'a dit, c'est important que les bureaux d'enregistrement et les opérateurs de registre travaillent ensemble dans un nouvel environnement. D'heure comme micro, oui. Finalement, après 9 années d'éducation par rapport à Dot, à Point Berlin, on est enfin en train d'entrer sur un nouveau territoire en lançant le premier nom de domaine de premier niveau de ville. Et on est confronté à des imprévus, mais également à de bonnes surprises que j'aimerais partager avec vous. Alors, les surprises intéressantes ont été les suivantes. Les entreprises qui avaient dans leur nom de domaine Berlin n'ont pas immédiatement adopté Berlin dans leur nom de domaine. Donc, c'était surprenant, parce qu'ils n'étaient pas disposés à changer. Mais ce qu'on a vu, c'est que tout était... Ce qui était nouveau à Berlin, c'est que les titulaires de noms de domaine étaient très attirés par ces noms de domaine contenant Berlin. Donc, des salles d'exposition, des centres de conférences, des entreprises d'événementiel, etc., se sont montrés intéressés. Et là, j'ai quelques exemples de nouveaux projets. Et l'autre lancement des noms de domaine de premier niveau de ville et de région dans les 2 premières années ont explosé, ont augmenté de manière significative en termes de vente. Mais après cette petite période de 2 ans, tout s'est stabilisé. Et donc, on s'est rendu compte qu'un nom de domaine local, ça ne doit pas être .com. Donc, nous avons un public limité ici. Mais nous avons utilisé le temps en notre faveur pour fonder une association qui défend nos intérêts, qui communique et qui soit la première ressource sur les noms de domaines de premier niveau géographique. Et nous avons des discussions très intenses. Et ça a été très important ici à la communauté ICANN de pouvoir échanger avec les autres noms de domaines de premier niveau de ville. L'autre surprise positive, c'est que les Berlinois ont beaucoup aimé ce nom de domaine Berlin. Et ce que disaient beaucoup les Berlinois, c'est qu'ils voulaient démontrer qu'ils étaient Berlinois. Et on leur a posé la question et on ne s'était pas rendu compte que c'était la raison principale pour laquelle ils voulaient obtenir un nom de domaine Berlin. Et parce que aussi c'était cool. Donc, autre surprise pour nous, et ce sur quoi on repose aujourd'hui, c'est la visibilité du nom de domaine Berlin dans l'espace public, dans la publicité, dans les journaux, les affiches. Et toutes les voitures de police ont un nom de domaine de Berlin qui est traduit, et ça, c'est réellement incroyable. Moi, j'aime beaucoup ces affiches dans les rues où on peut tous voir un nom de domaine Berlin dans l'espace public. Vous voyez ici, sur les grandes pancartes, il y a eu une campagne pour trouver les valeurs de Berlin. Et aujourd'hui, on a un bon taux de TLD avec 55 000 noms de domaine, 1,5 million de chiffre d'affaires annuel, 200 000 et 9 employés. Donc, l'idée, c'est d'être vu par le grand public, que les gens vous voient. On pense que réellement, on a changé profondément les choses. Donc, notre vision, c'est qu'à l'avenir, Berlin soit finalement une ville totalement numérique pour les Berlinois et que l'identité numérique de la ville soit celle-ci. Carte au micro, merci beaucoup. Oui, lorsqu'on est passé de Louvre.fr à Louvre.art, on s'est aperçu de la même manière que l'URL était beaucoup trop long, il y avait plein de barres obliques et que c'était beaucoup trop compliqué et qu'ils n'allaient pas pouvoir faire de publicité sans perdre leur nom de domaine. Alors, Greg au micro. Alors, notre histoire continue d'être un peu différente de celle des autres noms de domaine. Et l'une des choses que j'ai apprises en premier, c'est que les banquiers ne sont pas disposés à prendre des risques ou au changement. Donc, modifier leur présence en ligne, ça a impliqué un changement d'état d'esprit très difficile pour eux à accepter. Donc, personne ne voulait être le premier à agir, ni le dernier. Ils voulaient voir ce que faisaient les autres avant, eux, de se lancer. Ce qu'on a appris aussi, c'est que les valeurs de nos TLD étaient relativement claires dans la mesure où la mise en œuvre, étant donné la vérification, la sécurité, semblait les impressionner. Et qu'il donnait la priorité à d'autres activités en termes de réglementation, conformité vis-à-vis de la réglementation, cybersécurité et les efforts en termes de croissance de leur chiffre d'affaires. Et finalement, on s'est aperçu que les banquiers étaient disposés à faire cet effort lorsqu'il y avait un renouveau dans leur marque. Et finalement, le principal enseignement qu'on a tiré, c'est que les titulaires de noms de domaine ont besoin de conseils. Ils ont besoin de savoir comment s'y prendre. Et ce qui fait que notre espace est particulièrement unique, c'est qu'on sait, on connaît nos titulaires de noms de domaine par leur nom. Et c'est particulièrement utile parce que lorsqu'on veut lancer ou déployer un nouvel outil, on travaille avec nos banquiers, on dit voilà, on est en train d'envisager cela, on peut travailler là-dessus, est-ce que vous pensez que ce serait utile? Est-ce que vous l'utiliseriez si on le déploie? Donc on est en communication avec eux avant d'investir dans un outil en particulier. Et l'un de nos récents outils, c'est quelque chose qu'on a déployé pour Point Banque et Point Assurance. On décrit quels sont nos 6 critères techniques requis, leur importance, comment les mettre en œuvre, le type de ressources qui peut les aider dans tout ce processus. Et pour un certain nombre de nos bureaux d'enregistrement, il y a des plateformes très importantes pour toutes ces informations, plutôt que de les laisser livrer à eux-mêmes pour trouver ces informations. En janvier 2015, nous avons également lancé notre programme de 2017, pardon, nous avons lancé notre site web pour les tiers. Si vous avez besoin de quelqu'un pour le réacheminement sécurisé d'un nom de domaine ou mettre à disposition VeriSign, on met toutes ces informations à disposition de nos clients. C'est particulièrement important et ça permet de gagner du temps.
Nous avons aussi trouvé un autre de motivation. Les banques, maintenant, font des choses différemment dans leur espace. Nous avons commencé à publier des histoires de réussite. Voilà juste un aperçu sur l'écran. Mais tout le monde, toutes les banques nous ont expliqué pourquoi ils étaient passés à Point Banque. Ils nous ont expliqué quelles difficultés ils avaient rencontrées, quelles étaient les leçons qu'ils avaient apprises. Nous avions commencé à les publier sur le site, mais maintenant, nous ne faisons plus. Parce que toutes les histoires étaient très similaires. Nous avons maintenant plus de 700 banques qui, plusieurs centaines de banques qui sont maintenant dans cet espace. Tout cela a bénéficié aux banquiers eux-mêmes et ils ont pu mesurer ainsi leur réussite. Nous sommes un opérateur de registre à succès. Nous avions plus de 6000 noms d'enregistrés. Et nous sommes à 90% de renouvellement, de taux de renouvellement. Nos banquiers nous disent souvent que cela fait une grande différence pour leurs clients et pour eux en tant qu'affaires, en tant qu'entreprise. Ils ont pu voir une certaine profitabilité, donc nous allons pouvoir continuer à développer des outils et des services pour les aider. 85% de nos titulaires viennent des États-Unis et 15% d'entre eux sont à l'international. Nous aimerions pouvoir avoir une approche plus internationale. Nous allons continuer à avoir une adoption de ce système qui sera plus importante. Nous faisons le suivi de ces sites Go Live d'une façon hebdomadaire. Sur les diapos à venir, vous allez voir ce qu'ont les banques ont fait, ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait la publicité sur ce changement. Comme vous le voyez à l'écran, chaque banque nous a fait des témoignages sur ce que cela a apporté à leur banque. Vous voyez ce site d'assurance qui nous donne l'exemple en disant que c'est important d'avoir une présence en ligne de nos jours parce que les gens recherchent des assurances en ligne. Voilà, celle-ci est ma préférée parce que j'y étais l'année dernière à cet endroit et j'ai vu cette banque, c'était marqué Shore Community Bank et ils avaient le nom du nouveau TLD sur le mur. Donc, j'ai pris une photo. Nous sommes beaucoup. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux. Voilà toutes les informations pour que vous puissiez me contacter dans l'avenir. Kurt au micro. Oui, c'est une barrière pour l'enregistrement des noms de domaine lorsqu'il s'agit des TLD qui soient restreints comme le vôtre ou que ce soit un TLD qui soit ouvert. Certains des distributeurs de registres maintenant commencent à adopter ces systèmes, mais nous devons maintenant comprendre que nous devons aider les nouveaux bureau d'enregistrement pour qu'ils puissent dépasser justement tous les obstacles qui s'opposent à eux. Jason, et vous, Kaz, vous devez en terminer avec la 6. Vous devez parler maintenant et je vous passe la parole. Alors, Jason, je voudrais aussi parler d'autre chose. Il y a donc une réduction de coûts. Et ça, c'est spécifique à achat de nom de domaine. Nous avons un nouveau directeur financier et à Newstar. Donc, notre équipe est vraiment sous beaucoup de pression pour réduire les coûts. Nous espérons pouvoir y arriver. Voilà un exemple d'un client qui est passé à point Newstar. Et voilà donc un des exemples à l'écran. Nous travaillons et essayons de changer d'état d'esprit pour pouvoir accepter ce nouveau système de navigation et le faire à travers de toutes nos participations, à travers toutes nos chaînes de marketing. Nous devons utiliser ce nouveau concept direct, ce nouvel URL, et nous espérons ainsi pouvoir réduire les coûts de recherche. Nous voulons vraiment que nos clients puissent venir à tout, anything.newstar, donc à n'importe quoi sur .newstar. Et afin de donner une identité propre au contenu numérique sur notre site. Je voudrais vous parler de notre plan rapidement. Nous avons mis en place des initiatives intéressantes. Nous voulons coordonner et éduquer nos parties prenantes en interne. Et ainsi, nous avons fait un changement pour que les gens n'aient pas peur du fait qu'ils vont peut-être casser l'Internet ou que leurs courriels ne vont pas fonctionner ou que leur navigation sur notre site va devenir pire. Donc, c'était vraiment clé pour que l'on puisse aller de l'avant. Voilà certaines des paramètres que nous avons obtenus. Voilà, nous avons des augmentations en général. Des points clés dont nous avons discuté, c'est que nos utilisateurs pouvaient trouver le contenu plus facilement. Et quand ils arrivent sur notre site, ils vont donc rester plus longtemps sur notre site. La chose importante était aussi que lorsque la transition, nous voulions faire un historique de notre parcours et le partager avec le monde. Alors nous avons créé un guide de lancement et il y avait une copie que je voulais partager avec vous, mais je ne sais pas où elle est, je l'ai perdue. Nous avons donc publié un guide de lancement qui parle de notre transition avec tous les détails que ça inclut. Donc, si vous êtes une marque et vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous allez faire, ou si vous ne savez pas comment cela fonctionne, venez voir notre guide de lancement, donc sur le site que je viens de proposer à l'écran. Nous avons des rapports sur les marques qui ont été faits, donc vous pouvez les trouver à brandsreport.newstar. Vous trouverez ainsi toutes les informations. Elles sont publiées deux fois par an. Nous utilisons notre temps pour enquêter sur ce qui se passe dans cet espace, dans l'espace des marques, et nous faisons des rapports. Donc, nous avons construit cela en 2016. Et c'est une ressource que nous avons mis en place pour l'industrie. Ça s'appelle makeway.world. Nous faisons là des recherches sur les détails. Nous expliquons ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Nous aimons cela parce que toute personne peut y accéder n'importe quand et peut ainsi savoir ce qui se passe exactement au sein de l'espace. Il y a du mouvement. Il y a plus de 600 marques déléguées qui sont là. Donc même si vous ne le voyez pas, si c'est pas visible, c'est ce qui se passe derrière la scène, si vous voulez. Je vous ai fait une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment tout cela est né. Connecter les choses et les endroits. Nous avons besoin de survivre. Les affaires aussi, donc les organisations, les entreprises aussi, pardon. Ce sont des connexions qui permettent aux clients de rencontrer leurs besoins et leurs désirs. Mais c'est un monde en ligne très, très occupé, très chargé, avec beaucoup, beaucoup de choses. Je ne vois pas. Et soudainement, la connexion est perdue. Et si les clients pouvaient trouver ce qu'ils veulent rapidement et facilement, au lieu de chercher à l'aveuglette. Imaginez les possibilités pour une meilleure expérience client et une meilleure connexion. Nous introduisons donc .brands, .marque. .brands fournit l'opportunité de faire tout cela du sens, sans difficulté, et sans avoir à naviguer beaucoup. Dans un monde où les organisations font beaucoup de promotions, vous pouvez trouver ticket.brand, shows.brand, marque.brand, de .apple à .nike, à .google, à .nike. Il est temps d'en terminer avec les longues recherches et de commencer à se connecter parce que nous devons trouver ce que nous cherchons. .brand, le futur d'un monde connecté. Visitez donc www.makeway.world pour plus d'informations. Andrew au micro, je voudrais juste faire un petit commentaire. Beaucoup de personnes ont parlé de comment ils travaillaient dans leur marché verticaux, disons. Ils font beaucoup de travail de tout type. Il y a des designers, toutes sortes de designers sur l'Internet qui travaillent tous d'entre nous et tout le monde, à Lacan d'ailleurs, doivent beaucoup aux personnes qui font du marketing comme Point Club et Point XYZ. On doit les remercier énormément parce qu'ils font ils font beaucoup pour créer cette espèce de sensibiliser du moins les gens sur les nouveaux TLD. Il y a beaucoup de domaines comme ça qui ont été mis sur le devant par ces gens-là. L'USG.net, est-ce que c'est ça? C'est un service d'ACAN, je crois. Non, c'est un très bon service. Il s'agit d'une bonne chose. J'aimerais bien que l'ACAN aille vraiment du côté de la prise de conscience, de la prise de connaissance. Il y a un manque de revenus, d'ailleurs, au niveau des TLD. Je crois qu'on en a parlé. Il y a des réductions de budget qui sont prévues. Il me semble que j'en ai entendu parler. Mais à Cannes, c'est peut-être pas forcément le travail de travailler sur la prise de conscience. Donc, nous avons tous un intérêt partagé à ce sujet. Nous devons en discuter plus et nous devons essayer de construire cette prise de conscience ensemble. Et nous ne devons pas seulement demander à Colin et à Daniel de mener la danse pour nous. Kurt Spritz au micro. Il faudrait qu'il y ait une équipe qui s'en occupe. Un jour, ils ont rencontré tous les bureaux d'enregistrement. Kurt Spritz au micro. Ils sont en Allemagne en ce moment, à domaine.fest. Il se préoccupe des questions sur les politiques et pas sur les questions opérationnelles. Nous avons à peu près 30 secondes pour en terminer. Nouvel intervenant, il me reste 26 diapos en 30 secondes. Non, Martine au micro, donc non, il me reste deux diapos. Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Nous avons entendu beaucoup d'histoire aujourd'hui à propos de l'utilisation. Il y a beaucoup de marques qui encouragent d'autres à lancer leur propre méthode de mise en application. En faisant cela pour leurs clients en général, vous verrez que beaucoup d'opérateurs de registres vont permettre l'adoption des points marques, donc en général. Donc, les techniciens vont pouvoir comprendre mieux cette histoire de bureau d'opérateur de registre. Ils vont pouvoir ainsi explorer différentes manières d'utiliser le DNS. Et ils vont l'utiliser de nouvelles manières que nous ne connaissons pas. Dans l'avenir, il y a une nouvelle série de TLD qui va avoir lieu. Donc, nous verrons beaucoup de nouvelles marques qui vont être candidates. Nous avons eu des réunions durant les 3 ou 4 réunions de l'ICANN et nous espérons que vous allez continuer à nous suivre pour voir ce qui se passe. Nous avons toujours des informations, des analyses, des rapports qui sont publiés, des histoires qui sont publiées. Nous avons une autre séance le 15 mars au matin. Venez nous rejoindre et comme ça, vous pourrez en apprendre plus. Et finalement, en termes de ressources, de disponibilité de ressources, le groupe a un site avec beaucoup d'informations variées et de ressources pour aider ceux qui vont déployer leur registre et pour ceux qui vont le faire à l'avenir ou qui vont être en candidat dans l'avenir. Merci. Kurt au micro. Oui, donc, la réussite, ça vient sous des formats différents. Nous l'avons vu en parlant à toutes ces personnes et nous savons que tout le monde est focalisé sur des plans à long terme. Et puis, je suis toujours surpris de voir comment tout le monde travaille énormément dans cet environnement. Et nous connaissons beaucoup ces personnes-là parce que nous les rencontrons souvent dans les réunions de la CAN. Mais pour beaucoup de registres, il n'y a pas assez d'argent ou d'effectifs ou de temps pour venir aux réunions de la CAN. Tout le monde travaille énormément parce que tout le monde essaie de faire de meilleures affaires. Donc, ils n'ont pas forcément le temps de participer. Donc, je vais en terminer avec la séance, à moins qu'il y ait plusieurs questions. Je pense qu'il y a une question en ligne, d'ailleurs. Il y a une question. John McCormick. L'approche marketing. Est-ce que Newstar a considéré du marketing dans son approche et son expertise pour le site de la marque intégrée et ses sous-sites? Mathieu au micro. Non, Jason au micro. Oui, nous utilisons les exemples que nous avons. Donc, la réponse directe à cela est oui. Nous parlons à nos clients et nous leur demandons comment les choses se passent. Nous voulons savoir comment ils s'en sortent avec la navigation. Oui, nous faisons cela. Alan Greenberg au micro. Une question pour Gégé, mais aussi pour les autres. Il y a une différence entre quelqu'un qui acquiert un nom de domaine et qui l'utilise, et qui l'utilise actuellement. Je regardais à cvs.pharmacy et ça m'a envoyé vers cvs.com. Et ils n'utilisent pas du tout au niveau de leurs opérations. Je voudrais donc savoir si on peut appeler ça une réussite. Ou est-ce qu'on essaie de demander à ce que les marques utilisent cela et pour qu'ils rendent ça leur vraie marque? Gigi au micro, oui, c'est vraiment l'objectif. Nous aimerions voir les pharmacies en général utiliser .pharmacie en tant que domaine primaire. Nous allons dans ce sens. Mais beaucoup des compagnies les plus importantes n'en sont pas encore tout à fait là. Ils essaient de transitionner avec leurs matériaux de publicité et leurs marques vers .pharmacie. Ils redirigent. Ils ont le .pharmacie. Cela est publié sur le site c.pharmacie et vous pouvez le trouver en accédant à travers une fenêtre de recherche. Et c'est vrai qu'à l'avenir, nous aimerions voir cela se faire. Kurt au micro, oui, cette tension, c'est un peu un succès parce que si quelqu'un fait .pharmacie dans leur moteur de recherche, c'est une porte nouvelle dans la recherche. Mais c'est ce qui compte, c'est ce que vous allez cliquer. Donc, s'ils ont établi ce portail et que les gens puissent ainsi cliquer sur ça, je pense que la partie de redirection, disons, c'est pas important quand on parle de CVS. Vous savez, ça va prendre du temps. Donc, beaucoup d'entre nous se sont dit que d'ici 2 ans, on verra .cvs, .pharmacie. Cela fonctionnera très bien, mais ça prend du temps. Georges Chodowski au micro. Une question pour Newstar. Vous êtes passé du niveau 2 au niveau 1 et en même temps, vous avez fait ce que vous avez appelé un rafraîchissement. Et vous n'aviez pas besoin de les faire les deux en même temps, mais vous l'avez fait quand même. Vous avez redirigé tout cela et vous avez fait un rafraîchissement ou à l'envers. Mais vous avez eu des millions d'URL qui flottait dans l'espace cyber. Et vous n'avez plus de contrôle de ce qui se passe avec ces choses-là. Et vous espérez que les gens vont cliquer sur ça pour qu'ils viennent sur votre site. Et il y a plusieurs manières de faire ce changement. Mais cela a des impacts différents sur l'expérience des utilisateurs finaux. Quels étaient vos choix? Qu'avez-vous décidé de faire? Comment est-ce que vous avez fonctionné?
Jason Lawyer au micro. Oui, bonne question. Effectivement, on n'a pas eu besoin de faire tout cela en même temps. Pour nous, il s'agissait
de timing. On était dans le processus de rafraîchissement. De toute façon, on allait le faire. Et sachant que on ne l'avait pas encore utilisé, il fallait voir l'importance de cela afin de renforcer le mouvement de la marque. Mais on savait qu'il fallait que ça se produise. C'est peut-être simplement une question de délai. On avait une autre personne aussi qui arrivait à la tête de tout cela et elle connaissait la gestion de domaine. Donc on en est arrivé à la conclusion de savoir comment mettre en œuvre ce changement par l'intermédiaire de l'analyse. Et une partie de cette conclusion, ça a été le rafraîchissement du site. Et comme ça a été dit auparavant, on a fait la transition en décembre, donc on a eu quelques mois pour mesurer. Et d'après les commentaires qu'on a reçus de nos clients jusqu'à présent, tous ces commentaires ont été très positifs. Ils ont le sentiment que ça va fonctionner et ils sont, et jusqu'à présent, il semblerait que les chiffres soient de notre côté. Bonjour. De l'Association des opérateurs de registre canadiennes. J'ai une question pour les organisations comme Point Pharmacie. Vous essayez d'attirer des groupes commerciaux d'autres pays. Toutefois, vous êtes une association nord-américaine. Donc, comment pouvez-vous garantir aux autres dans d'autres pays qu'il y aura une administration équilibrée ou que les décisions que vous allez prendre pour Point Pharmacie seront équitables pour tous? Comment est-ce que vous allez faire? JJ au micro. Oui, je voulais vous dire que notre association NABP a des membres dans les 9 provinces canadiennes ainsi que en dehors du territoire des États-Unis, en Australie et dans d'autres pays. Donc, nous ne nous concentrons pas exclusivement sur les États-Unis, mais ce que nous faisons, c'est travailler avec les agences de réglementation dans d'autres pays pour nous assurer que les candidats dans d'autres pays sont éligibles pour le Point Pharmacie et sont en conformité avec la juridiction nationale du pays où ils exercent. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Nouvel intervenant micro. Pour Point Banque, parce qu'il y a des organes qui sont reconnus au niveau international, la Fédération bancaire internationale par exemple, il y a des membres ou des membres associés qui font partie de cela. Et donc, il y a une communauté plus large qui permet de tirer parti de ces relations qui existent déjà. Kurt au micro. J'avais une réunion avec l'Association des banquiers européens et ils m'ont demandé si il y aurait d'autres personnes et au panel aujourd'hui et m'ont dit « Ah oui, je le connais bien. » Et j'aimerais rebondir un petit peu là-dessus parce que, vous savez, au cours des dernières semaines, j'ai beaucoup appris à propos de GG et dans le cadre de ses fonctions, elle a pour mission de sauver des vies. C'est un défi important. Et lorsque il y a une candidature pour un nouveau GTLD, donc elle a ce désir aux États-Unis. Et merci à tous de votre attention, merci d'être venus et merci à tous les membres du panel qui ont travaillé dur et merci à Sue Schuller qui nous a supporté ces dernières semaines.